Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Dealmaker, le podcast du labo sponsorisé par EY Venturi Avocat. Je suis Franck de Castro, aujourd'hui j'ai le plaisir d'interviewer Soline Kidet qui animait les précédents épisodes. Bonjour Soline.
Bonjour Franck.
Alors Soline, merci à toi de te prêter à l'exercice aujourd'hui. Pourrais-tu rapidement te présenter à nos auditeurs ?
Oui, bah merci Franck. Effectivement, je suis à la place de l'interviewer aujourd'hui, c'est super. Je suis avocate au sein du cabinet EY Venturi, avocat depuis environ 9 ans maintenant, spécialisée en droit des sociétés et j'accompagne désormais un certain nombre de nos clients qui souhaitent devenir entreprise à mission, d'où le thème abordé aujourd'hui.
Effectivement, les entreprises à mission, c'est un sujet qui est de plus en plus en vogue aujourd'hui. Peut-être que tu pourrais nous parler un peu plus des différentes caractéristiques d'entreprise à mission, mais dans un premier temps, nous présenter ce qu'est l'entreprise à mission, quel est vraiment le but de l'entreprise à mission.
Tout à fait. Alors, une entreprise à mission, c'est une société qui va publiquement faire état de son ambition de poursuivre un ou plusieurs objectifs sociaux et ou environnementaux. En fait, c'est une qualité, donc on ne parle pas d'une forme sociale nouvelle, c'est-à-dire que les sociétés vont rester, par exemple, des SARL, des SAS, elles vont garder leur forme commerciale en général et avoir cette qualité supplémentaire qui va être inscrite sur le CABIS de la société. Donc, on va voir société SAS, entreprise à mission. On va vraiment avoir cette qualité qui va être ajoutée en plus. En France, c'est la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises, donc on appelle la loi Pacte, qui a fait entrer en droit la possibilité pour ces entreprises commerciales d'intégrer dans leur statut une prise en compte des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs activités. Pour certains, c'est une véritable avancée. Pour d'autres, c'est un simple outil marketing. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette deuxième vision de l'entreprise à mission parce que on va le voir, les dirigeants ont des obligations, des objectifs à remplir et des vérifications vont être faites. Pour finir sur cette introduction de l'entreprise à mission, on constate que beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France ont passé le cap et sont devenues entreprises à mission. Quelques exemples que vous connaissez sans doute, on a Danone qui a été très rapidement pionnière en ce domaine. On va avoir Fago aussi, Back Market, La Maïf. Enfin, voilà, on peut en citer un certain nombre, mais on voit que c'est un vrai mouvement.
Ok, merci beaucoup pour ces éléments. Tu nous disais que la loi Pacte, pour revenir sur ce que tu présentais avant, la loi Pacte a donné cette possibilité à des entreprises. Donc, qui dit possibilité dit que c'est accessible donc aux entreprises, mais je pense qu'il faut quelques critères particuliers pour devenir entreprise à mission. Donc, du coup, quels sont ces critères qui aujourd'hui permettent à des entreprises de devenir entreprise à mission?
Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre de critères à remplir, comme tu le dis, Franck, pour faire état publiquement de leur qualité de société à mission. Donc, il va y avoir des conditions. La première d'entre elles est de prévoir dans les statuts une raison d'être, dont la raison d'être est définie au sein du Code civil. On va avoir par exemple Danone qui, comme raison d'être, a indiqué apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Donc, toutes les sociétés vont devoir définir une raison d'être plus ou moins courte et ensuite préciser des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre, ainsi que les modalités du suivi de l'exécution de cette mission. Donc, on va avoir comme objectif, je prends l'exemple de Fago cette fois-ci, qui a pris un certain nombre de critères et de missions. On va avoir mesurer ses émissions de CO2, réduire ses émissions de CO2, être transparent sur la vie du produit. Voilà, on voit que c'est vraiment adapté à la société, très concret, et on va pas avoir de minimum ou de maximum en termes d'objectifs à poursuivre, mais c'est une obligation en revanche de les inscrire dans les statuts à la suite de la raison d'être. La réalisation des objectifs, ensuite, va faire l'objet d'un contrôle interne et externe. Je m'explique, le contrôle interne, c'est que les objectifs dont on vient de parler vont être vérifiés par un organisme tiers indépendant. Donc, on parle d'OTI, un acronyme pour aller plus vite sur ce sujet, qui va être désigné par la société pour ses exercices et qui va contrôler tous les 2 ans ou tous les 3 ans, en fonction de la taille de l'entreprise, si la réalisation de ces objectifs a bien été effectuée. Alors, on va avoir ce contrôle externe qui va faire l'objet donc d'un rapport de l'OTI qui va être publié sur le site internet de la société, donc qui va être rendu public. Donc c'est quand même très important parce que ça participe à la communication de l'entreprise et on voit que le contrôle est véritablement mis en place. Outre ce contrôle externe, on va avoir aussi un contrôle interne, donc dans l'entreprise, via la création d'un comité de mission ou, pour les sociétés qui ont moins de 50 salariés, un simple référent de mission. Donc, ça va être quoi? Ça va être vraiment une entité distincte des organes sociaux. Donc, on va pas forcément retrouver les dirigeants dedans, même pas du tout en principe. Et on va retrouver, en revanche, au moins un salarié de la société. Et dans ce comité, on va regarder si l'exécution de la mission est bien mise en place par la société. Et on va surtout présenter tous les ans, lors de l'Assemblée générale qui approuve les comptes de la société, un rapport faisant état du contrôle interne qui aura été effectué. Donc effectivement, pour les petites entreprises, la création d'un comité en tant que tel n'est pas obligatoire. On peut nommer une personne, généralement un salarié qui est intéressé sur le sujet, référent de mission pour établir ce rapport. Voilà les principales critères pour devenir entreprise à mission.
Ok. Donc je comprends qu'il y a tout un processus en interne pour vraiment déterminer sa raison d'être, déterminer ses objectifs. Et je suppose qu'il y a plusieurs étapes à suivre à partir du moment où on commence à avoir l'ambition justement de devenir une entreprise à mission. Je suppose qu'il y a différentes étapes à respecter pour devenir entreprise à mission, c'est un cheminement. Donc peut-être que tu peux nous en dire un peu davantage sur ces étapes.
Oui, effectivement, on va avoir déjà la première étape qui est de concevoir sa raison d'être. Donc en fait, il va y avoir un souffle dans la société et vraiment une idée de vouloir donner un cap en interne afin d'incarner la vision de l'entreprise et le changement qu'on souhaite voir dans le monde via l'activité de l'entreprise. Tout ça, ça va faire l'objet effectivement de réflexions en interne où en général, on met tout le monde autour de la table. Là, c'est vraiment pour intégrer tous les salariés, toutes les parties prenantes pour essayer de trouver donc la raison d'être de la société. Ensuite, une fois qu'on a cette raison d'être, on va définir les objectifs, ces objectifs statutaires, comme vous l'avez compris, qui vont être inscrits, qui vont être définis, mais dont vont découler des objectifs opérationnels et des indicateurs. Puisque vous l'avez compris, ces objectifs vont être analysés et par l'OTI et par le comité de mission. Il faut bien qu'on fixe des indicateurs pour savoir s'ils ont été remplis ou non. Donc attention aussi à ne pas forcément fixer des objectifs trop inatteignables, j'ai envie de dire, ou trop précis, ou trop chiffrés, parce que il faut que vous puissiez arriver à les remplir un maximum en tout cas, vous n'ayez pas de problème lors de la vérification, et puis surtout veillez à bien définir vos indicateurs pour que ce soit facile pour l'OTI et pour les personnes qui vont suivre la mission au quotidien de voir si les objectifs sont remplis ou non. La troisième étape, je dirais que c'est vraiment donc la mise en place du double contrôle. On en parlait avec la vérification de ces objectifs par et le comité de mission ou le référent et l'OTI. Donc, il va falloir trouver finalement comment on va construire son comité de mission, les personnes qui seront dedans, et de même, qui va être la personne nommée en qualité d'OTI. Donc, il y a aussi une partie de subjectif là-dedans, mais il faut trouver un vrai partenaire qui va nous accompagner pendant 6 ans dessus. Enfin, la dernière étape pour véritablement être société à mission, c'est d'inscrire donc tous ces éléments dans les statuts. Donc, tenir une assemblée générale pour modifier ces statuts, puis porter ces nouveaux statuts auprès du greffe du tribunal de commerce, réaliser les formalités pour enfin obtenir son CABIS avec la mention entreprise à mission dessus.
Je comprends que, du coup, ce processus demande d'être vraiment très précis. Et ce n'est pas obligatoire en même temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait pousser une start-up qui représente quand même des sociétés qui ont besoin d'être très flexibles ou autres, quels avantages peuvent trouver des start-up à devenir entreprise à mission?
Alors c'est un très bon point, Franck, tu as raison, c'est que on est sur quelque chose qui n'est pas obligatoire, mais qui pourtant a un effet bénéfique énorme en termes d'image, parce que les tiers sont informés du caractère vertueux de la société. Donc on a ce premier point. Ce deuxième point, c'est en termes de recrutement, où on se rend compte de l'importance de la qualité d'entreprise à mission. On le voit aujourd'hui quand on lit un petit peu les sondages, on voit que 2 jeunes sur 3 qui ont entre 18 et 30 ans sont prêts à renoncer à un emploi si l'entreprise ne prend pas assez en compte les enjeux environnementaux et sociétaux. On voit aussi que presque 90% des actifs se questionnent sur le sens de leur activité et qu'ils ont besoin de cohérence entre leurs valeurs, leurs convictions personnelles et puis ce que la société va porter comme message. Donc, on a vraiment un avantage très fort en termes de du fait de pouvoir attirer des nouvelles recrues, de fédérer aussi les équipes autour de la vision des valeurs de l'entreprise, notamment pour les jeunes générations. C'est vraiment un point clé. En externe, vis-à-vis des clients, des partenaires, des institutions, on voit que la visibilité de l'entreprise va être accrue et que cette qualité va vraiment prouver son engagement. Pour certains de nos clients, on se rend compte aussi que finalement, la marque et la société va se développer plus rapidement parce que voilà, on a vraiment pris le temps de creuser sa vision, de voir comment on allait faire pour atteindre les objectifs. Et finalement, on s'aperçoit que ça a un effet très bénéfique sur le développement de la société. Par contre, je dois quand même le dire, il n'y a pas d'avantage financier, fiscal ou social pour le moment lié à cette qualité. On nous pose souvent la question, mais ce n'est pas encore le cas.
Et du coup, si je reprends tous ces avantages, je me dis que en face il doit y avoir aussi une contrepartie. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, des choses sur lesquelles nos auditeurs doivent faire attention à l'avenir si jamais ils décident de devenir entreprise à mission?
Oui, il y a toujours un contrepoids, effectivement, là-dessus. Mais pour l'instant, c'est pas encore très très rude en termes de sanctions ou de points de vigilance. Je m'explique, aujourd'hui, on va pas avoir de sanctions financières parce qu'on n'a pas respecté les missions et sa raison d'être qu'on a inscrit dans les statuts. Le principal risque, finalement, c'est l'exposition réputationnelle. C'est-à-dire que si on ne remplit pas une des conditions qui est énoncée au sein du code de commerce, parce que tous ces points-là que j'ai déjà cités finalement sont repris bien sûr et repris dans les codes, code civil, code de commerce. Donc si l'OTI ou le comité de mission ou le référent conclut qu'on n'a pas respecté les conditions, finalement, ça va être inscrit dans les rapports qui sont rendus publics. Donc on a une mauvaise réputation. Et pour par exemple nos concurrents qui vont venir regarder notre site ou pour les gens qui travaillent avec nous, les fournisseurs, les clients. Et en plus, toute personne intéressée va pouvoir saisir le président du tribunal de commerce en référé pour demander au représentant légal de supprimer cette mention entreprise à mission de tous les actes et tous les supports de la société et également de son cabis. Le ministère public a aussi cette possibilité-là. Et effectivement, comme on l'imagine, la réputation d'une société comme Danone, Fago, pour reprendre les exemples de tout à l'heure, Back Market, qui finalement se verrait assignée et à qui on demanderait de supprimer cette qualité, voilà, ça peut avoir de graves effets. Mais après, voilà, on n'a pas d'autres sanctions pour l'instant qui sont mentionnées dans les textes en droit français.
D'accord, donc je comprends que c'est surtout une question aujourd'hui de crédibilité, même pour la société qui se prévaudrait de ce statut, de cette qualité, pardon. C'est plus de la crédibilité et cela pourrait impacter ses relations commerciales futures ou même ses relations avec ses salariés.
Tout à fait.
Si on devait synthétiser l'impact de la qualité d'entreprise à mission sur la société, est-ce que tu pourrais nous faire une synthèse de cet impact, Soline?
Oui, tout à fait. Je dirais en y réfléchissant qu'on a des impacts pour les équipes. Mais aussi au niveau opérationnel. Enfin, vraiment, c'est ce que je ressens en accompagnant nos clients sur cette phase de la vie de la société. Vraiment, on voit que les équipes sont fédérées autour d'une même mission et que les salariés sont beaucoup plus impliqués dans les objectifs de l'entreprise. Donc, on va fidéliser ces équipes autour de valeurs communes. Le fait que, on ait un comité de mission avec des salariés dedans ou qu'une personne dans des petites entreprises soit référent de mission. C'est vraiment important. Et puis ils ont un rôle à jouer tout du long de l'année auprès des équipes, auprès des vérifications à faire. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'on est sur un axe de différenciation lors du recrutement. Et ça, c'est pas un point à négliger vis-à-vis des nouvelles générations, notamment, alors des anciennes aussi, hein, mais on voit vraiment que c'est important pour les nouvelles générations. En revanche, le point important à rappeler, c'est que d'après moi, ça nécessite l'adhésion et vraiment l'appropriation par tous les collaborateurs de la mission avant cette transformation. C'est-à-dire qu'on ne force pas, évidemment, ces équipes à devenir entreprises à mission. Il faut vraiment que ça soit un élan collectif, en tout cas, de ce que j'imagine. Ensuite, outre les équipes, pour moi, ça a un impact aussi au niveau opérationnel. Vraiment avec... ça va pas être une transformation d'un métier, mais on va élargir la notion de valeur. Et donc, du coup, on va potentiellement changer un petit peu son modèle économique parce qu'on s'est fixé des objectifs et qu'il va falloir s'y astreindre. Et donc, c'est possible qu'on change certaines choses dans notre modèle. On va avoir un nouvel outil d'aide à la décision, justement, calé sur ses objectifs. Donc, finalement, on peut dire qu'on a une vraie évolution de la culture d'entreprise. Et que chacune des parties prenantes va avoir des objectifs qui vont être redéfinis et qui permettent d'avoir vraiment des valeurs très ancrées dans ces sociétés qui optent pour la qualité d'entreprise à mission.
Et une dernière question sur la possibilité de faire des levées de fonds. Est-ce que tu peux voir aujourd'hui de la part d'investisseurs, par exemple, que l'entreprise à mission, c'est quelque chose qui rend l'investissement plus intéressant pour certains types de fonds d'investissement ou même de business angels qui pourraient être intéressés par ces thématiques?
Alors oui, on voit une grosse tendance en ce moment dans les fonds d'investissement d'investir dans des projets, alors on dit à impact. La société à mission permet de répondre aussi à ce critère, alors pas entièrement, mais ça en fait partie. Dans des précédentes levées de fonds, on a pu se demander si ça pourrait faire peur aux investisseurs aussi, puisque c'est quand même une nouvelle qualité, c'est assez récent, on sait pas, ça aurait pu gêner potentiellement des financiers, ce qui n'est pas le cas du tout. On le voit lors des levées de fonds, soit d'amorçage, soit même en série A ou plus loin, que les investisseurs sont tout à fait réceptifs, que ça va dans le sens de l'histoire finalement. Et même si on n'a pas forcément le temps au moment de la levée de fonds, par exemple, de passer entreprise à mission, les investisseurs sont tout à fait d'accord pour laisser un certain délai, le temps vraiment encore une fois de fédérer les équipes, de prendre le temps d'animer ce débat et de trouver la raison d'être et les objectifs à fixer. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose de très valorisé en ce moment pour les fonds à impact, mais pas uniquement pour des fonds vraiment financiers très classiques.
Bien, merci beaucoup Soline pour tous ces éléments. Je suppose que ça va intéresser fortement tous nos auditeurs qui se posaient des questions sur les entreprises à mission. Merci à toi pour cette interview et merci au Labo pour ce podcast.
Merci beaucoup Franck, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.